En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame, vous êtes docteur en histoire de l'École pratique des hautes études, vous êtes chargée de conférences, chercheur au groupe de sociologie des religions et de la laïcité, groupe commun entre le CNRS et l'École pratique, et vous animez régulièrement des sessions de formation sur l'enseignement du fait religieux et la laïcité. Vous avez publié récemment un ouvrage dans lequel vous résumez des années de recherche sur ce sujet, les religions dans l'enseignement laïque, au PUF, et d'ailleurs, vous pouvez montrer ce livre, et donc, nous vous écoutons.
Merci. Donc, je voudrais tout de suite préciser le titre de mon intervention, afin d'éviter toute confusion. Il s'agit de cerner quelle place est faite aux religions dans l'enseignement laïque français, non pas par le biais d'une approche confessionnelle relevant d'activités catéchétiques, mais par le biais de ce que l'on appelle depuis quelques années l'enseignement du fait religieux, c'est-à-dire une approche culturelle extérieure des religions. Alors, du fait du temps relativement bref qui nous est imparti, je voudrais, pour mettre en perspective le thème de l'enseignement du fait religieux en France, organiser mes propos autour d'un bref rappel historique, dans un premier temps, et dans un second temps, d'analyse, d'interrogation sur le modèle français, que je voudrais partager avec vous, sur la mise en œuvre de ce modèle, ses difficultés et ses singularités. Alors, la question des relations qu'entretiennent les religions et en particulier l'Église catholique avec le monde éducatif, est ancienne. Mais cette relation a pris un tour nouveau depuis la fin du XIXe siècle, avec la loi que l'on évoquait déjà ce matin, du 28 mars 1882, rendant l'instruction obligatoire et, sans employer explicitement le terme de laïcité, en laïcisant de fait les programmes, en supprimant l'instruction religieuse, pour la remplacer par l'instruction morale et civique d'une part, et d'autre part, en mettant fin à la surveillance des ministres du culte sur l'école publique. Et c'est exactement un siècle après cette loi que commence à se développer en France un débat social sur la nécessité de présenter aux élèves les religions comme objet de savoir, afin de faciliter la compréhension de l'histoire et du patrimoine de l'humanité, ainsi que des expressions artistiques ou littéraires des différentes civilisations. Et la Ligue de l'enseignement a d'ailleurs joué un rôle précurseur, présentant à son congrès de 1982 une motion en ce sens. Et à l'époque, l'une des principales raisons de cet intérêt renouvelé pour les faits religieux est le constat du manque de culture religieuse des élèves, rendant difficile, voire impossible, l'appréhension d'un certain nombre de thèmes littéraires, historiques, philosophiques ou artistiques inscrits dans les programmes, parce que les jeunes générations manquent des références culturelles nécessaires pour les aborder. Et des sondages viennent d'ailleurs à l'époque corroborer ces observations. Alors en 1989, l'historien Philippe Joutard remet un rapport sur l'enseignement de l'histoire, de la géographie et des sciences sociales. Et dans ce rapport, il souligne la nécessité de remédier à cette inculture religieuse des élèves constatée, en accordant une place plus importante à l'histoire des religions, dans les cours d'histoire et de géographie, mais aussi de littérature, et en montrant l'importance du fait religieux non seulement dans les civilisations du passé, mais aussi dans les sociétés contemporaines, et en montrant également comment ce fait religieux s'inscrit dans la vie culturelle, dans la civilisation du quotidien, à travers le calendrier, à travers les fêtes, à travers les prénoms, à travers l'architecture. Et un certain nombre de colloques, à la fin des années 80, se succèdent pour souligner l'intérêt de cette réflexion, tout en exprimant très rapidement le refus de créer une matière spécifique dispensée par un spécialiste des sciences religieuses, mais plutôt la volonté d'insister sur l'acquisition des connaissances religieuses dans le champ des disciplines scolaires existantes, c'est-à-dire principalement l'histoire, le français, la philosophie, les langues et les arts. Et la réforme des programmes du secondaire, qui est mise en œuvre de façon progressive à la rentrée 1996, de façon parallèle au collège et au lycée, s'inscrit dans le prolongement de ces recommandations et relance l'intérêt pour ces questions. Alors, sans proposer pour autant un bouleversement total, cette réforme attire l'attention sur, par exemple, la dimension historique de la religion juive ou de la religion chrétienne en classe de sixième, ou sur l'étude de documents de nature patrimoniale, littéraire comme la Bible, architecturale ou picturale. C'est une des caractéristiques de cette réforme, c'est de souligner l'intérêt d'utiliser des documents de nature patrimoniale. Quelques années plus tard, après les événements du 11 septembre 2001, l'intérêt pour cette question connaît de nouveaux développements, puisque le ministre de l'Éducation nationale, qui est alors Jack Lang, confie au philosophe Régis Debray une mission de réflexion sur l'enseignement du fait religieux dans l'école laïque, avec deux objectifs, faire un état des lieux de cet enseignement et également formuler un certain nombre de propositions. Dans son rapport qu'il remet en mars 2002, il reprend le constat de l'inculture religieuse qui avait déjà été formulé quelques années auparavant et il observe également que cela s'inscrit dans une crise plus générale de la culture classique et des humanités sur laquelle je reviendrai. Mais il souligne également qu'au-delà de l'approche patrimoniale, il est nécessaire d'apporter aux élèves des éléments de compréhension du monde contemporain, bien évidemment en écho aux événements récents qui viennent alors de survenir. Et pour cela, dit-il, il est nécessaire de mieux former les professeurs des disciplines concernées, historiens, littéraires, philosophes ou enseignants de langue. Il propose pour cela un module de formation qui s'intitule « Philosophie de la laïcité et enseignement du fait religieux ». Il propose également de développer ce que l'on appelle la formation continue pour les enseignants en exercice. Et enfin, la création de l'Institut européen des sciences des religions en 2002 s'inscrit dans cette volonté également de rapprocher le monde de la recherche et l'enseignement secondaire. Et on peut dire que la nécessité de la prise en compte du fait religieux dans l'enseignement fait l'objet d'un consensus très large. Ainsi, les membres de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la laïcité soulignent, je cite, « l'intérêt d'une meilleure sensibilisation des enseignants et des élèves aux faits religieux et surtout à l'histoire des religions ». Le rapport de la commission Stasi que l'on évoquait tout à l'heure évoque, lui, une approche raisonnée des religions comme fait de civilisation afin de mieux comprendre les différentes cultures, et cette question est régulièrement mentionnée par les ministres de l'Éducation nationale. Encore récemment cette année, lors du débat parlementaire à propos de la loi d'orientation sur l'école, en février 2005, Jean-Pierre Brard, député de Seine-Saint-Denis, a proposé un amendement prévoyant d'organiser l'enseignement du fait religieux dans le système éducatif, je cite là encore le texte, « indispensable, aussi bien pour comprendre le monde actuel que pour avoir accès à la culture et au monde des arts ». Et cet amendement a été voté dans le cadre du rapport annexé à la loi par des députés de toute sensibilité politique. C'est donc dire le consensus à la fois des acteurs éducatifs et de la classe politique. Mais ce qui reste relativement surprenant, c'est que l'on continue à parler de la nécessité d'introduire l'enseignement du fait religieux, alors qu'il y est déjà présent depuis longtemps à travers les programmes, en particulier d'histoire, comme s'il ne se faisait pas, ou en tous les cas, de façon insuffisante ou insatisfaisante, ou bien comme si les objectifs qu'on lui a assignés n'avaient pas été atteints. Effectivement, les enjeux qui sont donnés à cet enseignement, comme favoriser l'accès au patrimoine culturel, comme développer la connaissance et le respect des diverses religions présentes en France, sont des objectifs ambitieux. Et on peut se demander si les élèves aujourd'hui ont une meilleure culture religieuse que leurs camarades il y a 10 ans époque de la mise en œuvre de la réforme des programmes, ou si les visées civiques d'éducation à la tolérance et à la prise en compte valorisée de la différence ont été atteintes. Il faudrait probablement pouvoir mener des enquêtes précises pour le dire, mais cela n'est peut-être pas certain. On peut alors s'interroger sur le modèle français de la gestion de l'enseignement sur les religions à l'école, en particulier au regard des pratiques des autres pays européens, dont nous parlera Jean-Paul Willem, pour en dégager les principales aspérités. L'une de ses principales caractéristiques est de ne pas utiliser une discipline spécifique, mais de faire appel à plusieurs matières. Ainsi, les programmes d'histoire, de lettres ou de philosophie permettent de traiter d'un certain nombre de questions. Quelques exemples, la Bible comme texte fondateur au programme de français, la naissance et la diffusion du christianisme en histoire, le monde musulman et son expansion, ou les réformes protestantes également en histoire, ou les trois monothéismes de 1850 à nos jours, là encore en histoire, ou bien la notion de religion en philosophie. Mais cette approche éclatée du fait religieux ne se fait peut-être pas sans un réel risque de dissémination et parfois un manque de vision cohérente et construite des religions dans les sociétés humaines. On peut également analyser les choix qui sont faits dans les représentations que l'on donne des religions. Les monothéismes largement privilégiés, les approches historiques favorisées, en lien avec les contextes antiques et médiévaux, qui sont les contextes d'élaboration et de diffusion des religions étudiées, l'importance de l'entrée dans le religieux par le politique. Ainsi, le judaïsme est présenté comme permettant l'émergence d'un peuple et d'un pays, le christianisme comme permettant l'émergence d'un empire, et l'islam, celui d'une nation arabo-musulmane. Par ailleurs, l'insistance également est forte sur les pratiques et la visibilité institutionnelle des religions, en accordant une place importante, par exemple, aux prescriptions et aux rites à respecter, au détriment parfois des dimensions symboliques et spirituelles. Et je pense en particulier à la présentation parfois très ritualiste qui est donnée de l'islam. Mais c'est également le rapport à la laïcité qu'il faut analyser. L'enseignement du fait religieux se déployant dans le cadre de la laïcité scolaire. On peut d'ailleurs se demander pourquoi un tel débat surgit aujourd'hui, et de façon liée, si la laïcité française a quelque responsabilité dans le constat fait de l'inculture religieuse. Il me semble que deux types d'explications sont à prendre en considération, en particulier la crise de la culture humaniste et celle de la pratique religieuse, comme facteur d'explication. De fait, l'enseignement public transmettait une culture générale humaniste, imprégnée de références religieuses, empruntées aux mythologies gréco-latines, mais aussi en grande partie au christianisme, par les langues anciennes et les auteurs classiques de la littérature française. Or, depuis les années 1960, cette culture s'est quelque peu effondrée. On peut donc lier la perte de la culture religieuse à la diminution de la culture littéraire et philosophique et peut-être à la prédominance d'un certain formalisme dans l'instruction. La deuxième raison renvoie, me semble-t-il, à la crise de la pratique religieuse et plus largement à une rupture dans les modalités de transmission. Sans confondre ici éducation religieuse et la connaissance de type culturel sur le christianisme, on peut cependant supposer que la première faisait une place à la seconde. Or, l'on observe une baisse significative de la socialisation religieuse des jeunes générations, plus marquée que chez les adultes. Il faut également souligner la crise de la famille, qui jouait traditionnellement un rôle essentiel dans la transmission de la mémoire religieuse, permettant de s'inscrire dans une lignée croyante. Je citerai Daniel Hervieux-Léger, qui parle de l'effondrement des cadres de la mémoire collective qui assurait à chaque individu la possibilité d'établir un lien entre ce qui vient d'avant lui et sa propre expérience présente. Et c'est le découplage entre, d'une part, la pratique et la croyance, et d'autre part, la prise de distance vis-à-vis des religions instituées qui ont pour effet une profonde déculturation religieuse de la population française et en particulier des jeunes générations, qui est lié également à un fort mouvement de sécularisation. Si bien qu'on observe aujourd'hui ce paradoxe intéressant, que c'est au moment où les religions, principalement la religion chrétienne, voire catholique. C'est au moment où les religions perdent leur emprise sur la société et subissent une importante désaffection qu'on redécouvre l'intérêt des faits religieux d'un point de vue culturel, historique et patrimonial. Et c'est bien dans ce contexte-là que s'inscrit le débat sur l'enseignement du fait religieux lié à la crise des humanités d'une part dans l'enseignement et à l'effondrement des pratiques et à la baisse de socialisation des jeunes dans les religions. Et en particulier de la transmission à travers donc les familles et les églises. Il faut également poser la question des relations qu'entretiennent l'enseignement du fait religieux et la laïcité en s'interrogeant en premier lieu sur une éventuelle responsabilité de la laïcité quant à l'inculture religieuse des élèves. Historiquement, dans un premier temps, en même temps que l'instruction religieuse est supprimée des écoles, des propositions se montrent favorables à un enseignement d'histoire des religions où celles-ci seraient appréhendées comme des objets d'étude susceptibles d'une approche scientifique, faisant appel pour cela à une connaissance rationnelle et culturelle. Et c'est sans doute au début du XXe siècle, avec la prégnance du scientisme et du positivisme, que la laïcité devient anti-religieuse chez certains instituteurs et insiste plus à une attitude d'abstention. Et c'est alors que la vision d'une religion renvoyée au fort intérieur, privée de toute dimension culturelle et sociale, se développe également. Pour autant, le fait religieux est abordé dans les programmes depuis longtemps, notamment dans ceux d'histoire, mais également dans ceux de lettres, et on voit mal comment il pourrait en être autrement quand on étudie l'histoire des sociétés ou celle de la littérature occidentale. Si bien évidemment la place accordée aux faits religieux varie dans le temps, cette dimension religieuse du savoir ne disparaît jamais totalement. Probablement, cet enseignement a pu se faire peut-être avec certaines circonspections selon les périodes. Mais pendant longtemps, les professeurs ont partagé avec leurs élèves un minimum de culture religieuse commune, peut-être de type confessionnel, il est vrai, et les problèmes donc sont plus apparus avec cette rupture de la transmission familiale et paroissiale que je viens d'évoquer. Par ailleurs, la laïcité scolaire est en vigueur depuis 120 ans et l'on déplore cette inculture religieuse depuis une vingtaine d'années seulement. Cependant, il est vrai qu'il existe des représentations de la laïcité faisant obstacle à une bonne compréhension des faits religieux. Que ce soit par l'expression, par exemple, de réticence en histoire pour aborder le cœur des religions, c'est-à-dire le sentiment religieux, les croyances et les mentalités, ou bien en lettres, par exemple, où la Bible est parfois considérée comme un livre qui ne peut être étudié que dans un cadre confessionnel. Des craintes d'attenter à la laïcité se manifestent quelquefois chez des enseignants qui appréhendent d'utiliser des notions d'ordre théologique ou d'utiliser des documents de nature religieuse lors de l'étude de certains sujets d'histoire religieuse. Ces appréhensions sont plus fortes vis-à-vis du christianisme, qui suscite le plus de réactions inquiètes, bien que l'islam ne soit pas également sans donner lieu à quelques inquiétudes du fait de l'appartenance revendiquée de certains élèves qui mettent parfois en porte-à-faux les enseignants. Si le souci de se garder d'une lecture confessionnelle est légitime, l'évitement du sujet par respect de la laïcité serait aussi une erreur. Et ce qui pose problème, c'est que cette laïcité n'est jamais définie. Elle agit plus comme un impensé culturel et social qui inhibe tout discours sur les religions et rend même difficile dans cette perspective une parole scientifique. Il faut d'ailleurs dire combien l'ignorance de la laïcité est parfois grande dans le monde éducatif, aussi bien chez des enseignants incapables de la définir ou l'utilisant de façon anachronique à des époques où elle n'existe pas, que chez des élèves qui parfois de façon un peu rapide l'assimilent à l'athéisme. Dans certaines situations, elle ne semble plus constituer une valeur significative et l'on peut même parler de crise de la laïcité, vidée de tout contenu et réduite, dans le meilleur des cas, à un outil de gestion de la pluralité religieuse et culturelle des élèves. Or, la laïcité, valeur républicaine garante de liberté et d'égalité, et acquis historique précieux, ne doit pas être appréhendée comme inhibitrice, mais au contraire comme libératrice. Elle ne doit pas empêcher la réflexion sur l'objet religieux, mais au contraire la stimuler et en permettre la libre exploration, comme elle l'a fait à la fin du XIXe siècle, en favorisant l'institutionnalisation des sciences religieuses dans l'enseignement supérieur. Ainsi, dès 1908, l'un des proches collaborateurs de Jules Ferry, Ferdinand Buisson, qui a été extrêmement actif dans l'élaboration de la laïcité scolaire, souhaitait que l'histoire des religions soit un enseignement dispensé. Alors, dans un premier temps, dans les universités françaises, mais dans un second temps également dans les établissements scolaires, afin de permettre aux élèves de mieux connaître l'histoire des civilisations et, je cite, de nourrir une large sympathie, une admiration respectueuse pour toutes les manifestations de la pensée et de la conscience, et également par là de lutter contre le mépris et l'intolérance. Et ces propos, presque centenaires, gardent une grande pertinence encore aujourd'hui. Et c'est parce qu'elle garantit la liberté de conscience de chacun, le respect des convictions des croyants comme des incroyants, mais aussi parce qu'elle fait appel à la distance réflexive que la laïcité peut offrir justement un cadre serein à l'étude du fait religieux. Cet enseignement reste toujours à analyser, à renouveler, parce qu'il touche non seulement aux choix qui sont faits dans la transmission du savoir, mais parce qu'il engage également la représentation que l'on se fait du citoyen dans une société pluraliste. Je vous remercie de votre attention.
Madame, nous vous remercions d'avoir abordé avec autant de talent un problème qui est effectivement fondamental, d'arriver à pouvoir vivifier un patrimoine culturel et spirituel essentiel pour chacun de nous, à la fois individuellement et collectivement, par une sorte de réappropriation du fait religieux sous ses facettes différentes. Vous avez montré à quel point c'était une nécessité ressentie par tout le monde, mais dont l'exécution n'était pas toujours très simple à mettre en œuvre. Alors, nous aurions eu certainement des questions à vous poser, mais je crois que ce sont d'autres qui vont bénéficier maintenant de votre présence.
Et
c'est bien compréhensible. Non, je vous en prie. Nous allons à présent écouter l'exposé de M. Jean-Paul Villem, qui est directeur d'école, directeur d'études. Vous voyez, nous avons tellement parlé d'école que je fais un lapsus immédiat. Directeur d'études à l'école pratique des hautes études et qui préside l'Institut européen en sciences de religion. Vous êtes spécialiste de sociologie des religions, vous occupez une chaire d'histoire et sociologie des protestantismes et vous êtes l'un des meilleurs spécialistes français de la laïcité. Vous êtes aussi, et c'est très important pour nous aujourd'hui, l'auteur d'études comparatives sur les questions religieuses en Europe, notamment. Vous avez écrit un livre intitulé « Europe et religion, les enjeux du XXIe siècle » chez Fayard, qui a paru en 2004. Et vous présidez l'Institut européen en sciences des religions, qui avait été fondé en 2002 par M. Luc Ferry, alors ministre de l'Éducation nationale. Mon cher collègue, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi un petit correctif, puisque l'Institut européen en sciences des religions, créé par le ministre Ferry suite au rapport de Régis Debray, est présidé par Dominique Borde, doyen honoraire de l'Inspection générale de l'Éducation nationale, et moi-même, je suis directeur de cet institut. l'enseignement du fait religieux en Europe. D'emblée, il faut dire que, comme dans le domaine des relations Église-État, le domaine des relations école-religion relève de la compétence de chaque État de l'Europe et qu'il n'y a aucun programme, aucune politique volontariste d'uniformiser le traitement scolaire du fait religieux en Europe à l'échelle de l'Union européenne. Il y a une grande diversité de dispositifs nationaux, mais ce que je voudrais vous montrer dans ce bref exposé, c'est qu'il y a malgré tout quelques éléments d'européanisation, à la fois pour des raisons sociologiques et pour des raisons juridiques. Alors, j'ai commencé par quatre considérations générales. La première, pour remarquer que dans pratiquement tous les pays d'Europe, existent dans les écoles publiques des cours spécifiques dévolus à l'étude du fait religieux ou des religions, des cours spécifiques qui sont pris en charge par des maîtres ayant reçu une formation à cet effet. Ces cours, on va y revenir, sont des enseignements confessionnels de religion ou des enseignements non confessionnels des religions. Pour l'instant, je voudrais insister sur le fait qu'il y a un enseignement spécifique sur le fait religieux dans la quasi-totalité des écoles publiques en Europe. D'emblée, c'est donc souligné que l'option française de l'étude du fait religieux à travers les disciplines scolaires existantes, sans introduire un enseignement spécifique, représente à l'échelle de l'Europe une voie originale, une spécificité par rapport à ce que nous observons dans d'autres pays. Ce qui distingue la France des autres pays d'Europe, je dirais aujourd'hui, et vous le comprendrez mieux après les différents éléments que je vais apporter, c'est moins, en fin de compte, approche laïque des religions versus approche confessionnelle des religions, car, comme on va le voir, dans plusieurs pays d'Europe, les dispositifs de cours de religion à l'école évoluent, et évoluent en particulier vers des approches non confessionnelles des religions, intégrant la pluralité des religions, voire la pluralité des visions de l'homme et du monde, avec prise en compte aussi des visions non religieuses, des humanismes athées. Deuxième remarque préliminaire, évidemment, l'enseignement du fait religieux dans les différentes écoles publiques d'Europe est très marqué par les dispositifs nationaux construits par l'histoire. Ça nous renvoie à des modalités de relations Église-État, de relations école-État. Par exemple, le rapport public-privé qui ne recouvre pas forcément le rapport confessionnel-laïque. Il y a des écoles publiques confessionnelles et des écoles privées laïques. Et dans un certain nombre de pays, comme en Belgique et en Irlande, il y a une majorité même d'écoles privées. Et si je me réfère à la Constitution irlandaise, l'article 42 indique que l'État reconnaît que l'éducateur premier et naturel de l'enfant est la famille et il s'engage à respecter le droit et le devoir inaliénable des parents d'assurer selon leurs moyens l'éducation religieuse, morale, intellectuelle, physique et sociale de leurs enfants en précisant dans le texte constitutionnel lui-même « Les parents sont libres d'assurer cette éducation, soit dans leur foyer, soit dans les écoles privées, soit dans les écoles reconnues ou établies par l'État. » Fin de citation de cet article de la Constitution de l'Irlande. Ce qui me frappe aussi lorsqu'on parcourt les différents pays d'Europe, c'est qu'un certain nombre de pays intègrent la religion dans la définition même de l'éducation scolaire publique. Deux exemples. La Constitution de la Grèce, dans son article 16, l'instruction constitue une mission fondamentale de l'État. Elle a pour but l'éducation morale, culturelle, professionnelle et physique des Hellènes. ainsi que le développement de leur conscience nationale et religieuse et leur formation comme citoyens libres et responsables. De même, la loi sur l'éducation de 1988 en Grande-Bretagne indique que le programme global des écoles publiques doit être équilibré et s'appuyer sur les bases les plus vastes possibles et doit promouvoir le développement spirituel, moral, culturel, mental et physique des élèves à l'école et dans la société. Développement spirituel, moral, culturel, mental et physique. C'est donc, vous voyez que dans certains pays, on voit que si d'emblée on inclut dans la définition même des objectifs de l'éducation scolaire publique l'épanouissement spirituel ou la dimension spirituelle, ça va avoir des conséquences sur la façon dont on va traiter le fait religieux à l'école. Et je voudrais encore citer le cas de l'Italie, où dans le texte du Concordat de 1984, il est indiqué que les principes du catholicisme font partie du patrimoine historique du peuple italien, que la République italienne et le Saint-Siège collaborent, je cite, pour la promotion de l'homme et le bien du pays. Et donc, en Italie, la forme d'État laïque admet l'enseignement de la religion catholique sur la base de l'évolution et de la valeur formatrice de la culture religieuse et de l'incorporation des principes du catholicisme au patrimoine historique du peuple italien. Vous voyez, des situations qui, vues de France, sont extrêmement, extrêmement différentes, mais s'enracinent dans des histoires politiques et religieuses qui sont à chaque fois spécifiques. Il est donc incontestable qu'il y a une grande diversité des dispositifs nationaux. Mais, et troisième remarque extrêmement importante d'entrée de jeu, tous les pays d'Europe sont confrontés aux mêmes défis. Tous les pays d'Europe sont confrontés aux mêmes défis. Bien entendu, les conséquences de la sécularisation et d'une perte de familiarité, de connaissance des élèves, des jeunes par rapport aux religions. La présence importante du fait musulman dans plusieurs sociétés européennes, plus largement une pluralisation religieuse accentuée dans les différentes sociétés, et la nécessité d'aborder les diverses traditions religieuses, les diverses visions religieuses et non religieuses de l'homme et du monde pour favoriser l'intégration sociale, le vivre ensemble, également un certain nombre de préoccupations concernant les dérives sectaires des religions. Donc, au minimum, il y a européanisation des défis, car toutes les sociétés européennes sont confrontées à ces défis, et en essayant de répondre à ces défis, je dirais chaque dispositif national est obligé un petit peu de bouger, d'évoluer. Il est difficile d'en rester au statu quo. Et en vertu en particulier d'un principe extrêmement important dans les institutions européennes, aussi bien au niveau de l'Union européenne qu'au niveau du Conseil de l'Europe et des effets de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de non-discrimination. Et le fait que même là où il y a des enseignements organisés, confessionnels de religion, la nécessité que les minorités religieuses ou les personnes sans religion ne soient pas discriminées à travers l'organisation d'un tel enseignement. Au-delà de cette diversité, il y a un consensus en Europe sur la nécessité de renforcer la connaissance des religions à l'école publique. Et je voudrais citer la recommandation 1720 adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 4 octobre 2005, c'est tout à fait récent. Dans cette recommandation, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dit ceci: « L'éducation est essentielle pour combattre l'ignorance, les stéréotypes et l'incompréhension des religions. Les gouvernements devraient aussi faire plus pour garantir la liberté de conscience et d'expression religieuse, pour encourager l'enseignement du fait religieux, pour promouvoir le dialogue avec et entre les religions et pour favoriser l'expression culturelle et sociale des religions. L'école est un élément majeur de l'éducation, de la formation de l'esprit critique, des futurs citoyens et donc du dialogue interculturel. Elle pose les bases d'un comportement tolérant fondé sur le respect de la dignité de chaque personne humaine. En enseignant aux enfants l'histoire et la philosophie des principales religions, avec mesure et objectivité, dans le respect des valeurs de la Convention européenne des droits de l'homme, elle luttera efficacement contre le fanatisme. Il est essentiel de comprendre l'histoire des conflits politiques au nom de la religion. La connaissance des religions fait partie intégrante de celle de l'histoire l'histoire des hommes et des civilisations. Elle est tout à fait différente de la croyance en une religion en particulier et de sa pratique. Même les pays où une confession est largement prédominante se doivent d'enseigner les origines de toutes les religions plutôt que d'en privilégier une ou de promouvoir le prosélytisme. Fin de citation de cette recommandation tout à fait récente du Conseil de l'Europe. Alors, je n'ai pas le temps là de développer les dispositifs qui existent dans chaque pays d'Europe. Je voudrais simplement synthétiser en disant il y a trois cas de figure. Un pays, la France, où il n'y a pas un enseignement, un cours spécifique consacré aux religions, mais l'abord du fait religieux est pris en compte dans les diverses disciplines, dans des programmes scolaires. Deuxième cas de figure, très, très nombreux dans différents pays d'Europe, ce sont les pays avec un enseignement confessionnel de la religion, où l'enseignement de la religion est organisé et contrôlé par les communautés religieuses qui se chargent de la préparation, de la sélection des enseignants, de la définition des programmes, l'approbation des manuels. C'est en Autriche, en Belgique, en Chypre, Espagne, Grèce, Malte, Pologne, Portugal. Dans plusieurs de ces pays, États et communautés religieuses collaborent dans les différentes tâches que je viens de citer, et les enseignants de religion ont besoin d'une déclaration d'aptitude délivrée par les communautés religieuses. Ces enseignements sont organisés en coopération, partenariat entre autorités d'éducation scolaire et les autorités religieuses. Alors, c'est un enseignement religieux confessionnel qui est facultatif ou optionnel. S'il est obligatoire, on peut s'en faire dispenser, mais bien évidemment, le problème, c'est l'organisation d'un tel enseignement pour les minorités religieuses, ne serait-ce que pour des questions d'effectifs, pour des questions d'emploi du temps. Donc, ça soulève un certain nombre de questions. Et je signale que c'est ce système qui prévaut toujours en Alsace-Moselle, dans trois départements de la République, avec Moselle, j'ai bien dit Alsace-Moselle, avec des enseignements de religion catholique, de religion protestante et de religion juive. Et le problème que ça pose, par exemple, à l'importante minorité musulmane en Alsace, dans une ville comme Mulhouse, il y a plus de musulmans que de protestants, mais il n'y a pas d'enseignement de la religion musulmane organisée au même titre que les autres confessions des anciens cultes reconnus. Alors, c'est un cas de figure, mais il y a également un autre cas de figure qui est un enseignement non confessionnel des religions qui se développent dans un certain nombre de pays. Alors là, il est tout à fait clair qu'il y a un peu une différenciation, je dirais. L'enseignement confessionnel de la religion est plus particulièrement fort en Europe dans les pays de catholicisme très majoritaire ou dans les pays de tradition orthodoxe majoritaire. L'évolution vers un enseignement non confessionnel de la religion, on l'observe beaucoup plus dans les pays de culture protestante d'Europe du Nord. Avec, par exemple, je vous cite la Suède. En Suède, en 1919, il y avait à l'école publique un enseignement du christianisme. En 1962, on a parlé de sciences du christianisme. En 1969, de sciences de la religion. Et en 1980, d'enseignement sur les questions de la vie et de l'existence. Une évolution progressive vers une approche historique, culturelle et pluraliste des différentes visions de l'homme et du monde, qu'elles soient ou non religieuses. Et on observe cela en particulier dans le Royaume-Uni, où on est passé d'une instruction religieuse, un enseignement religieux, et aujourd'hui à un multi-faith religious education, un enseignement religieux multiconfessionnel dans les écoles britanniques. Alors, dans ce cas de figure, l'enseignement concernant la religion est organisé et contrôlé par l'État, qui s'occupe de la préparation, de la nomination, de la rétribution des enseignants, de la définition des programmes, de l'approbation des manuels, en collaboration ou non avec les autorités religieuses, mais ce ne sont pas les autorités religieuses qui ont le rôle principal, et dans certains pays, ils n'ont d'ailleurs que très très peu de pouvoir sur cet enseignement. Ce caractère non confessionnel de l'enseignement n'exclut pas la possibilité d'une attention particulière portée au christianisme. C'est tout à fait le cas au Royaume-Uni. C'est également le cas au Danemark, surtout au niveau de l'école élémentaire, la prise en compte des différentes religions étant plus marquée dans les échelons secondaires de l'enseignement. Alors, le sens un petit peu des évolutions actuelles en Europe. Premièrement, une volonté d'intégrer de plus en plus ce qui concerne la prise en compte du fait religieux à l'école, quel que soit le dispositif, de l'intégrer de plus en plus dans les objectifs propres de l'éducation scolaire et de ses missions spécifiques en tant qu'institution publique ouverte à tous les élèves. Je voudrais vous citer un exemple avec dans le cadre d'un extrait d'une plaquette du ministère de la Communauté française en Belgique sur les cours de morale et de religion. En Belgique, à l'école officielle, il y a des cours de religion catholique, protestant, musulman, juif, et des cours de morale non confessionnelle pour les familles, les enfants, les jeunes qui préfèrent ce type d'enseignement. Eh bien, la communauté française de Belgique présente ainsi les objectifs communs de ces cours de religion et de morale non confessionnelle. Tous s'inscrivent dans une pédagogie qui doit faire appel au questionnement, à la confrontation et au développement de la réflexion critique. Elle vise à aider les jeunes non pas à se conformer, mais à se former et à devenir autonomes. Qu'elle se réfère à la culture laïque, à la mémoire d'un peuple ou à une tradition religieuse, l'éducation aux valeurs proposée par chacune de ces sources de sens est inspiratrice d'une identité humaine personnelle, porteuse d'un regard sur le devenir individuel et collectif. Il est donc question d'une d'émancipation, une dynamique de libération, la libération de la pensée, la recherche infatigable de la paix, de la fraternité, de la justice, de l'amitié, de l'amour, le développement de l'engagement démocratique, l'éducation à la citoyenneté. Voilà les objectifs dans lesquels s'inscrivent aussi bien l'enseignement religieux catholique que l'enseignement de la morale non confessionnelle, que l'enseignement de la religion musulmane, juive ou protestante dans les écoles officielles de Belgique. Je le disais précédemment, ouverture croissante à des degrés divers à la pluralité religieuse et philosophique, la même où existent encore des cours consacrés spécialement à l'étude d'une religion. Et là, l'exemple le plus significatif est la Grande-Bretagne, avec la mise en place de programmes d'enseignement qui prennent en compte les religions particulièrement significatives dans la société britannique aujourd'hui, le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme et la religion sikh. Et un programme national lancé en avril 2004, une proposition de cadre national pour l'enseignement du religieux qui reconnaît toujours une place privilégiée au christianisme à toutes les étapes de la scolarité, mais qui dit que les élèves doivent être sensibilisés aux autres grandes religions représentées en Grande-Bretagne et pouvoir avoir des enseignements à ce sujet, y compris des enseignements concernant les philosophies athées. Alors, maintenant, cet enseignement de la religion, l'enseignement du fait religieux, développe dans un certain nombre de pays des crises, des tensions, des évolutions. C'est particulièrement le cas en Espagne. Ça a été également le cas de façon assez particulière lors de la réunification de l'Allemagne, avec l'introduction du fameux... habitué à ce système. Il faut dire qu'il y a une particularité, c'est que la loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution allemande, que l'enseignement de la religion est en fin de compte en Allemagne la seule discipline scolaire garantie constitutionnellement. Les mathématiques, l'allemand, etc., c'est pas garanti constitutionnellement, mais la religion, c'est le fameux article 7, alinéa 3 de la loi fondamentale allemande. Et donc, dans le Brandebourg, il y a eu une alternative proposée au fameux cours confessionnel de religion, en l'occurrence soit catholique, soit protestant, un cours qu'on peut traduire « Formation à la vie, éthique et science des religions ». L'introduction de cette alternative a été contestée par de différents côtés, et aussi bien par les églises catholiques et protestantes, et c'est allé jusqu'à une décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui a, en fin de compte, adopté une position de compromis en réintroduisant l'enseignement religieux confessionnel selon la Constitution et en laissant la possibilité, à côté, mais pas comme une alternative, de suivre cet enseignement concernant formation à la vie, éthique et science des religions. Pour conclure, je voudrais dire que les grandes tendances que l'on peut observer, c'est que, d'une part, il n'y a pas en Europe de demande significative pour éliminer un enseignement spécialement dévolu à l'étude des faits religieux à l'école. Je dirais, au contraire, il y a une volonté, un souhait de le développer. C'est vrai que, comme le dit Silvio Ferrari, un juriste italien qui fait une étude comparative sur les différents dispositifs en Europe, c'est vrai que la perspective française qui consiste à intégrer la connaissance des faits religieux à l'intérieur des différentes disciplines scolaires n'est pas en Europe perçue comme une alternative très suivie ou très qui inspire beaucoup d'autres pays, même si le rapport de Régis Debray et l'attention portée en France sur l'enseignement du fait religieux à l'école publique a eu de grands échos en Europe. La deuxième remarque que l'on peut faire, c'est que là où existent des enseignements confessionnels de religion, c'est la question de la non-discrimination des élèves qui ne font pas partie de ces religions minoritaires ou personnes sans religion, qui se trouvent de plus en plus posées, et le fait que ces enseignements religieux confessionnels ne rendent pas justice à la pluralité des religions et des philosophies qui caractérisent les sociétés européennes. Et c'est donc là qu'on voit se développer une sensibilité au développement d'un enseignement non confessionnel sur les religions, mais toujours dans le cadre d'une discipline particulière, avec, dans la plupart des pays, il faut le dire, un maintien souvent de dispositifs d'enseignement confessionnel. Les deux évolutions peuvent aller de pair, et ce qui me frappe, c'est que les nouveaux membres de l'Union européenne, les pays de l'ex-bloc communiste, en révisant leurs lois concernant les relations Église-État, les relations école-religion, la plupart viennent d'introduire des enseignements confessionnels de religion à l'école, même si dans quelques pays, on va plus vers un enseignement non confessionnel des religions. Vous voyez que sur cette question, la dimension européenne est extrêmement intéressante à considérer, et je pense qu'il y a des enrichissements mutuels pour la France à en tirer. Je vous remercie.
Je vous remercie d'avoir réalisé un exploit, parce que nous donner comme ça une peinture de la diversité des situations européennes en un temps aussi réduit, et d'avoir montré d'ailleurs que cette diversité européenne était aussi présente d'une certaine façon en France à travers l'Alsace et le département de la Moselle. Je dois dire qu'ayant été recteur de l'Académie de Nancy-Metz pendant quelques années, j'ai participé à cette vie, à cette définition des cours de religion, des trois religions établies par le Concordat, mais aussi de la définition des cours de morale que les familles qui ne voulaient pas que leurs enfants suivent un enseignement religieux pouvaient adopter, et qui était d'ailleurs, dont le contenu était défini par les représentants des trois religions établies, d'ailleurs. Bon. Mais donc, vous nous avez brossé là un tableau qui montre à la fois l'importance du problème et la diversité des solutions. Alors, nous avons une demi-heure pour le débat. Je vais demander à M. Ducomte s'il veut bien revenir sur l'estrade au cas où il y aurait des questions qui le concerneraient. Et je dois dire que j'aurais été content si M. Ménard avait voulu venir peut-être me prêter main forte au cas, ou en tout cas s'apprêter à répondre à un certain nombre de questions. Le débat est ouvert. Qui souhaite demander la parole ou interroger l'un des orateurs? Oui, je demanderai à la personne qui demandera la parole peut-être de se nommer de façon à ce que l'on sache. Y a-t-il un micro dans la salle? Oui.
Je m'appelle Michel Catu, je viens de Pau où j'anime une association de citoyens essayant de comprendre ce qu'est la laïcité en fait. Et la question que je voudrais poser à M. Willem, enfin deux questions. La première, c'est une surprise, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé de ce qui se pratiquait dans les écoles que moi, juriste, j'aurais tendance à appeler de service public, mais de statut privé, c'est-à-dire l'enseignement catholique sous contrat. Il y a, je suppose, dans ces écoles-là, un enseignement du fait religieux, ou même un enseignement carrément de type catéchisme, quoi. Donc j'étais surpris qu'il n'en parle pas, c'était ma première observation. La deuxième observation, c'est que j'ai cru comprendre que l'Institut européen de sciences des religions était une création française, puisque les responsables sont français. Et donc, est-ce qu'il pourrait éclairer un petit peu quelles étaient les motivations à l'origine de la création de cet institut, puisqu'il s'agit d'une affaire franco-française? Est-ce que la France pensait qu'elle pouvait trouver des sources d'inspiration dans les autres pays d'Europe? Merci.
Merci beaucoup, monsieur.
Il ne me revenait pas de traiter de la question de l'enseignement privé, ni de traiter de la France, puisque j'avais à traiter de l'enseignement du fait religieux en Europe. Mais je peux simplement vous indiquer que les écoles privées sous contrat, bon, en l'occurrence catholiques pour la plupart, sont confrontées aux mêmes problèmes, aux mêmes défis, aux mêmes constats d'inculture religieuse, et que beaucoup de ces établissements ont également mis en place des cours d'histoire et de culture religieuse qui concerne tous les élèves. Et au sein même de ces établissements, il y a une distinction qui est faite entre les cours d'histoire et de culture religieuse et le catéchisme. Et donc, cette distinction est faite au sein même des établissements scolaires catholiques. Alors, pour le second point, l'Institut européen en sciences des religions, c'était une des propositions qui figurait dans le rapport de Régis Debray sur l'enseignement du fait religieux à l'école laïque. Cet institut a été créé au sein de l'école pratique des hautes études, grand établissement de l'enseignement supérieur, dont on connaît bien la fameuse section des sciences religieuses, créée en 1886, une année après qu'ait été supprimée la faculté de théologie de la Sorbonne. Mais la République, je dirais, dans sa grande sagesse, a pensé qu'il était important que l'on continuât à étudier les religions d'un point de vue historique, philosophique, anthropologique, sociologique, au sein de l'enseignement supérieur français. Donc, le fait que l'IESR soit créé comme institut au sein de l'école pratique des hautes études, avec son de département de sciences et religions est en soi significatif, puisque sa mission, c'est d'être un peu interface entre le grand nombre de recherches universitaires érudites qui se sont déployées dans l'enseignement supérieur, au CNRS, dans les écoles des hautes études, et que tout ce potentiel soit mis à la disposition et puisse contribuer à la formation initiale et continue des enseignants de l'éducation nationale, mais plus largement également des agents publics des différents ministères, car l'Institut européen en sciences et religions travaille prioritairement avec l'éducation nationale, avec les rectorats, avec les différents instituts universitaires de formation des maîtres, mais travaille aussi avec les autres ministères. On est en train, par exemple, de réfléchir avec le ministère de l'Intérieur, à la mise en place d'une formation à destination des secrétaires généraux de préfecture, l'intelligence des faits religieux, de la situation religieuse actuelle, au point de vue historique, au point de vue juridique, au point de vue de la compréhension même de ces phénomènes religieux. Et l'IESR constitue un centre de ressources. Je suis particulièrement heureux d'ailleurs de pouvoir vous dire qu'on vient d'ouvrir un site web et que si vous tapez IUSR, un quelconque moteur de recherche, vous aurez une présentation de l'Institut, de ses différentes activités et de sa bibliothèque virtuelle, où nous mettons en ligne des présentations d'ouvrages, pour l'instant une centaine d'ouvrages sur l'islam, une centaine d'ouvrages sur la laïcité, des ouvrages évidemment sélectionnés, car nous sommes aussi à une époque, je dirais, où il y a un regain d'intérêt, pour toutes sortes de raisons très complexes, sur les faits religieux, mais il y a une profusion de publications, il y a du bon et du moins bon. Et donc il est extrêmement important qu'une institution universitaire puisse fournir quelques avis, quelques recommandations sur les études qui puisent aux meilleures sources de la recherche sur les faits religieux.
Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question, Monsieur Ménard? Au premier rang, mademoiselle.
Puisqu'il est possible de revenir sur toute la matinée, je proposerai une question à M. Ducomte. J'ai été très intéressé par la suggestion qu'il a faite d'introduire une notion de laïcité plurielle. Mais j'ai trouvé que c'était une audace formidable, parce que je trouve qu'il y a contradiction entre pluralisme et laïcité, car la laïcité est hantée par l'idée de diversité, d'universalité. D'universalité, donc le contraire de diversité. Alors que s'il y a une laïcité plurielle, on part du constat d'une diversité. Et la situation... Donc la laïcité s'est développée dans un cadre de tension, de lutte, comme il en a été souvent question dans la première partie de la matinée. Et cette tension et cette lutte, elles tentent à s'atténuer, à se transformer en dialogue, si l'on introduit la notion de laïcité plurielle. Je ne vois que des avantages à cette nouvelle situation, mais je crois que la philosophie de la laïcité va changer considérablement.
Oui, je réponds bien volontiers. Je ne dis pas que le terme était mien. C'est un terme qui avait été utilisé au milieu des années 80 pour relancer le débat. Il était, je pense, maladroit, il a été vécu comme maladroit. Vous avez raison de le souligner, la laïcité est porteuse d'universel. Mais en même temps, est-ce que le temps n'est pas venu de réfléchir sur l'universel ? Et la Ligue de l'enseignement s'en est préoccupée, puisqu'un colloque universitaire a été organisé il y a un an de cela sur... le terme est un petit peu vague, mais ceux qui ont une connaissance à la fois du droit ancien et de la philosophie médiévale me comprendront, sur, vers de nouveaux universaux, en se référant au concept d'universaux tel qu'il avait traversé la pensée médiévale. Nous partions d'un constat qui est toujours, il me semble-t-il, évident, qui est celui qu'avait fait Jacques Derrida lorsque, évoquant l'universel des Lumières, il disait « Mais est-ce qu'on n'est pas en présence d'une mythologie blanche ?» Blanche, hétérosexuelle, occidentalo-centrée. C'est pas complètement faux. Et notamment le débat qui, encore aujourd'hui, tourne autour de la colonisation démontre bien toute la difficulté qu'il y a à soit revendiquer, soit à construire une vision philosophique qui serait uniquement référée à cet universel occidentalo-centré. Et ça a été un petit peu ce qui est à l'origine du débat engagé par l'Église de l'enseignement en disant « Mais est-ce que, si précisément on veut retrouver le sens de l'universel, il ne convient pas de considérer que la diversité est une catégorie de l'universel ?» Et c'est un petit peu en ces termes-là que la question a été posée. La diversité, notamment dans ses dimensions culturelles, nous apparaissant comme étant une catégorie de l'universel, et la laïcité ayant précisément pour fonction de donner les moyens de gérer intelligemment cette diversité, en donnant à l'espace public la part qui lui revient, en donnant à la conviction personnelle la part qui lui revient nécessairement, mais en partant aussi d'un constat qui bouscule quelques idées reçues, c'est que, à l'évidence, chacun parle de quelque part. Et lorsqu'en particulier, aujourd'hui, on est amené à travailler sur la notion d'espace public, aussi bien sur le terrain juridique que philosophique, les deux étant intimement liés, on se rend compte que ce n'est pas si simple que cela. Et qu'en particulier, il est des questions qui, en apparence, relèvent de l'espace privé, comme l'état des personnes, à l'égard desquelles on verrait mal comment l'État n'irait pas y voir dès lors que l'ordre public serait affecté, toujours cette notion d'ordre public un petit peu récurrente, et que, au sein de l'espace public, notion très symbolique, autant que réelle, chacun intervient avec ce qu'il est. Il y a une formule que je trouve remarquable du philosophe allemand Jürgen Habermas, qui dit, c'est quoi l'espace public ? L'espace public, c'est un lieu où s'échangent des intersubjectivités raisonnées. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure définition de l'espace public, et c'est un petit peu la raison pour laquelle nous avons été amenés à engager ce débat. Pour nous, la laïcité n'est pas plurielle, bien évidemment. La société est plurielle, mais le terme a été utilisé comme outil de provocation un petit peu, permettant à chacun de se dire « Mais attendez, est-ce que la laïcité, c'est uniquement une sorte d'incantation commode dont on peut utiliser les termes pour exorciser des démons ?» Nous pensons que non. La laïcité fait partie de ces concepts, de ces idées qui ne s'usent que si l'on ne s'en sert pas. Et on s'en sert à l'aune de ce que nous imposent les contraintes sociales.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que Monsieur le Recteur Tabatoni voulait prendre la parole.
Merci. Oui, Monsieur le Président, ma question se serait adressée à Monsieur Darcos, mais je pense que les termes dans lesquels je vais la formuler permettra aisément au magistère qui est en face de moi d'y répondre. Je voulais dire à Monsieur Darcos que, étant un produit de la laïcité, j'avais lu avec un très grand intérêt son livre et que je l'avais lu aussi avec émotion. Il s'entend toutes les racines de ce qui a fait ma culture. Mais je voulais lui dire en même temps que, comme il l'a expliqué, les positions que Jules Ferry a pu prendre trouvaient leurs propres racines dans les Lumières et que finalement, la conception de l'université impériale de Napoléon, qui trouvait lui-même ses sources dans les Lumières, était simplement poursuivie par Jules Ferry. Ce n'était pas une conception impériale, c'est une conception des Lumières et une conception qui était compatible avec le fait qu'elle s'insérait dans des croyances au progrès. Toutes les conceptions de Jules Ferry sont justifiées parce qu'elles mettent en œuvre des croyances du progrès. Et donc, à cette époque, comme vous l'avez expliqué, Monsieur le Président, il était relativement facile d'organiser rigoureusement la formation des esprits, puisque la seule cléricature qui pouvait mettre en cause la conception du progrès était celle des religions. Le problème est que, je m'interroge sur ce que, comme vous l'avez tous fait, sur les difficultés qu'il y a dans la période actuelle à comprendre de manière aussi rigoureuse la notion de laïcité. En effet, nous sommes dans une période, je ne suis pas philosophe et j'ai beaucoup de réticence à dire ce que je vais vous dire, mais tout ce que je peux lire et les discussions que je peux avoir sont que, précisément, nous sommes dans une période de crise totale de l'idée de progrès et que, d'autre part, le fait que toutes les idées dans le relativisme du postmodernisme, dont on n'a pas parlé mais qui est bien là, toutes les idées de ce relativisme aboutissent à ce que chaque opinion a une valeur de cléricature et que les opinions sont débattues dans le cadre scolaire, chacune avec une valeur de cléricature. Et alors, je me demande comment nos enseignants peuvent interpréter la notion de laïcité, c'est-à-dire une notion dans laquelle la raison peut se protéger de l'invasion des caricatures, alors que nous sommes quotidiennement de plus en plus là-dedans. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le recteur. Est-ce que vous souhaitiez intervenir ?
Je crois que... Rapidement, parce que c'est une prise de position dont beaucoup d'éléments ont un agrément, parce que je crois que les questions que vous posez sur l'inversion du discours autour du progrès est une question centrale aujourd'hui, à un point tel qu'on essaie de trouver des substituts à la notion de progrès. Enfin, on a essayé d'inventer des substituts, je pense, à la notion de méliorisme, telle que Taguieff a eu l'occasion de la développer. Moi, je reste convaincu qu'une société ne peut pas évoluer sans disposer d'un moteur et que ce moteur, on n'a pas trouvé de meilleur que celui de progrès. Alors ça, c'est une pétition de principe. Mais en même temps, il ne faudrait pas, et c'est un petit peu ce qui a créé la postmodernité, avec un élément un peu vénéneux, la postmodernité d'inspiration heideggerienne, le retour vers la patrie de l'être, c'est quelque chose de compliqué, de difficile. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est tout en étant conscient des obstacles auxquels nous sommes confrontés. Le relativisme, qui est un obstacle et un danger, me semble-t-il. Tout ne vaut pas tout. Et il y a des choses plus essentielles que d'autres. Et la laïcité permet de faire cette distinction. Je pense qu'également, il faut se méfier de toutes les postures qui seraient réactionnaires, au sens étymologique du terme, qui consistera à dire « hier était meilleur qu'aujourd'hui », ce qui signifie que la seule façon de se comporter honnêtement à l'égard des enjeux du présent, c'est d'avoir un rétroviseur comme mode de gestion des enjeux qui nous sont opposés. Donc tout ça, me semble-t-il, sont des questions pertinentes. Alors, je n'ai pas de réponse absolue, mais il m'apparaît, ou il nous est apparu collectivement à la Ligue de l'enseignement, que seule cette réflexion, justement, sur l'universel était aujourd'hui de nature à nous apporter, ou non pas des réponses, on n'a pas cette ambition, et on ne les apportera pas seul, mais au moins à poser clairement la question où elle se posait aujourd'hui. C'est parce que, précisément... et je reviens au message de Jules Ferry, c'est parce que précisément tout ce qui nous a construit sur le terrain de la pensée républicaine est un petit peu le produit des lumières telles que mises en œuvre par la pensée positive au XIXe siècle, qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu deux conflits mondiaux, parce qu'il y a eu la Shoah, enfin, moi, je suis toujours sidéré par les bousculements philosophiques qui ont été ceux qu'a ressenti la pensée, notamment philosophique allemande, après 1945. Horkheimer, Adorno, enfin, il y a des choses... L'école de Francfort, la première école de Francfort, a dit des choses extrêmement dures sur la notion de progrès. Et je pense qu'on est encore aujourd'hui en train de gérer cette difficulté. Alors, avec des considérations un petit peu nouvelles, faisant que nous en sommes en partie sortis, mais nous n'en sortirons complètement que si nous reprenons le débat sur l'universel.
Merci beaucoup. Je voudrais, puisqu'on a évoqué l'importance pour la compréhension du patrimoine que nous avons en commun du rôle de la Bible ou de la... Ah, je crois que ces demoiselles sont obligées de nous quitter. Nous les remercions de cette présence gracieuse qui a donné à notre réunion de ce matin un caractère
très agréable. Merci beaucoup, mademoiselle. Nous vous applaudissons. Oui, c'était un simple intermède. Une des opérations secrètes les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale s'est appelée l'opération Habakkuk, du nom d'un prophète qui avait été ou qui aurait été transporté par un cheveu de sa tête jusqu'à Jérusalem. Et cette opération Habakkuk avait été menée par Max Perutz, qui dirigeait un des grands laboratoires de l'Université de Cambridge, laboratoire d'où sont sortis 9 prix Nobel. Et l'objet de cette opération était le suivant. À une époque où les avions, où les gros avions ne pouvaient pas encore franchir l'Atlantique d'un seul coup d'aile, faire une île artificielle au milieu de l'Atlantique en détachant un morceau de la banquise, en le transportant au milieu de l'Atlantique pour permettre aux avions de se poser. Sur ces entrefaites, les progrès de l'aviation ont été suffisamment rapides pour que l'opération n'ait pas eu lieu d'être, mais son opération de code était le nom d'un prophète. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, madame ?
Bonjour, Lima Sutter, j'ai travaillé pour le ministère de la Défense. Actuellement, j'écris un essai politique sur des questions de société. Donc, j'aimerais poser une question un peu philosophique, peut-être que M. Saint-Sernin pourra me répondre. Moi, je m'interroge sur jusqu'où peut-on aller dans la lutte pour la non-discrimination des minorités religieuses. A-t-on le droit et surtout, quelles responsabilités porterons-nous de cautionner parfois ou de laisser s'installer un enseignement qui a comme postulat de base la non-égalité des croyants et des non-croyants, la non-liberté de conscience et de croyance. Et là, je fais référence à un sujet que je connais très très bien, c'est-à-dire l'islam qui nous préoccupe actuellement en France. Merci.
Oui. Je crois que nous pourrons peut-être, Monsieur Veillem et moi-même, répondre. Je vous dirais, j'ai eu une expérience, alors comme recteur de l'Académie de Nancy-Metz, au fond, de voir un département comme celui de la Moselle, quand j'y étais il y a 25 ans, 95% des familles voulaient pour leurs enfants un enseignement religieux. Et l'enseignement religieux était donné par les instituteurs. Certains d'entre eux étaient croyants, d'autres ne l'étaient pas. Ceux qui n'étaient pas croyants ne tenaient pas à ce qu'il y ait des intervenants extérieurs dans leur classe et ils donnaient un cours d'instruction religieuse. Bon. Quant à la définition des programmes, les familles avaient le choix entre un enseignement religieux, soit catholique, soit protestant, soit juif. Et si elles ne désiraient pas que leurs enfants reçoivent une instruction religieuse, les enfants avaient une instruction morale. Le programme de l'instruction morale ressemblait comme deux gouttes d'eau au programme que vous nous avez lu de la communauté française de Belgique. Autrement dit, en gros, c'était un ensemble de valeurs communes, de respect de l'autre, etc., de conditions de la vie en commun. Problème qui se retrouve alors dans un champ tout à fait différent, c'est le problème auquel sont confrontés les comités d'éthique, par exemple, dans tous les pays et tout ça. Donc, si vous voulez, je crois que ce qui était la base, en tout cas, moi, ce que j'ai connu empiriquement, c'était l'idée qu'il y avait quand même une sorte de nature humaine, je ne dirais pas de religion naturelle commune, ça serait excessif certainement, mais d'une façon à la fois raisonnable, ouverte à la diversité des communautés, de prendre un certain nombre de normes de la vie collective et, je dirais, de la formation des enfants et des adolescents de façon à peu près raisonnée. Alors, évidemment, c'était avant, finalement, la présence plus importante de l'islam. Je ne suis pas sûr que s'il y avait eu des représentants de l'islam pour définir un contenu, moral de base, il y aurait eu, à condition que ça ne touchât pas certains problèmes, de la vie privée ou de la vie familiale, il y aurait peut-être eu un certain nombre de consonances. Mais là, je suis bien incapable de répondre. Mon cher collègue, pourriez-vous ?
Oui, ce qui est intéressant d'observer donc, sur la scène européenne, c'est que globalement, l'existence d'enseignement confessionnel de religion à l'école n'est pas jugée incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme et le respect des libertés fondamentales. Par contre, là où il y a problème, et c'est le cas dans de très nombreux pays, c'est la question de la non-discrimination des minorités religieuses et des personnes ne se reconnaissant pas dans la religion majoritaire. Et qu'ils ne soient pas relégués, marginalisés, etc. Et donc, s'il y a le questionnement des dispositifs d'enseignement religieux confessionnel vient des minorités et des personnes sans religion. Mais, comme le montre le cas belge, c'est complexe, c'est très complexe, parce que le cas belge, il y a aussi différents avis là-dessus en Belgique. Il y a l'ancien recteur de l'Université libre de Bruxelles qui a proposé l'introduction dans les deux dernières années du lycée d'un cours d'histoire comparée des religions, Hervé Asquin. Bon, pour l'instant, l'idée chemine, mais elle n'a pas encore abouti. Mais dans le cas belge, on voit qu'en maintenant un enseignement séparé selon les visions religieuses ou non religieuses avec l'enseignement de morale non confessionnelle, chacun a le souci de s'approprier les valeurs universelles et de dire qu'à partir de sa source de sens, qu'elle soit la morale laïque ou que ça soit une religion, comment il s'approprie les valeurs universelles et il contribue à l'éducation aux valeurs universelles et aux valeurs démocratiques, aux valeurs des droits de l'homme et à l'engagement responsable dans les sociétés pluralistes. Alors, c'est un cas de figure, mais j'ajoute par rapport à la question très profonde qui était posée là tout à l'heure, c'est que on a l'habitude, particulièrement à partir de l'histoire française, l'habitude d'opposer modernité et religion. Si déjà on commence à faire une comparaison entre l'Aufklärung, les Lumières germaniques, l'Enlightenment anglo-saxon, les Lumières écossaises, par rapport aux Lumières françaises, il n'y a pas le même rapport à la religion. Et donc, il faut voir que dans plusieurs pays d'Europe, les choses se sont passées un petit peu différemment et qu'il y a des traditions religieuses qui ont participer à l'édification de la modernité. Et la fameuse opposition aussi entre religion et démocratie, il y a l'expérience de l'Allemagne, les groupes religieux au rendez-vous de la sortie de deux dictatures en Allemagne, l'expérience des pays de l'ex-bloc communiste qui font au contraire l'expérience que un certain retour des religions dans l'espace social sont associés avec des processus de démocratisation. Donc, on a des expériences historiques, si vous voulez, variées, qu'il faut prendre en compte. Et je pense que le grand défi sur lequel réfléchissait de façon très intéressante Jean-Michel Decomte, là, à l'instant, c'est, comme dit Alain Touraine, comment vivre ensemble avec nos différences. Et où placer le curseur de la nécessaire intégration sociale, culturelle, civique, politique et la prise en compte d'une incontestable diversité de la société civile. Et c'est ça le grand défi de notre époque.
Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question.
Oui, je vous remercie. Gérard Sustrac, collectif associatif à Orléans-la-Source. C'est une question, je ne sais pas à qui s'adresse la question, peut-être à M. Willem. Dans la présentation que vous avez faite, la France, une fois de plus, se singularise par sa spécificité. Et je voudrais rapprocher ça de ce qui a été dit hier par les représentants des maires évoquant une situation d'urgence. Est-ce que nous ne sommes pas actuellement dans une situation d'urgence par rapport, pour ne prendre qu'une seule religion, l'islam, puisqu'elle est devenue la deuxième religion de France, et que dans les quartiers dits en difficulté, indépendamment du fait que les jeunes demandent à être reconnus et à trouver de l'emploi, la religion n'est-elle pas en train de devenir le terreau sur lequel s'installent toutes les revendications? Donc le fait d'en parler à l'école d'une façon résolue, par exemple au travers d'enseignants non confessionnels, ne serait-il pas de nature, à condition de l'accepter d'une façon volontariste, à déminer tout ce terrain potentiel de difficulté?
Bon, question essentielle et difficile. Il est tout à fait clair que le fait pour l'école publique laïque de parler de religion, c'est un enjeu citoyen et un enjeu éducatif fondamental. Ne pas le faire, c'est précisément nourrir les communautarismes, parce que ça signifierait que la religion, en fin de compte, c'est une chose qui ne concerne que les communautés religieuses, que les clercs des différentes religions. Donc il est extrêmement important que l'école publique le fasse et que les maîtres aient l'autorité pour le faire, car ça heurtera toujours les visions anhistoriques, fondamentalistes des religions, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'acquis de la recherche historique en sciences humaines sur les traditions religieuses, et il est extrêmement important que l'école publique dise comment les religions se sont formées, qu'elles ont une histoire, il y a une histoire de la fabrication des textes, il y a une histoire de la réception des textes, que chaque religion ait un monde de débat, c'est développé, l'esprit, le devoir d'information, car ne pas accréditer l'idée que parce qu'il s'agit de religion, on peut dire n'importe quoi. Non, là aussi, la logique scientifique avec sa déontologie propre, vérification des sources, libre examen, esprit critique est une donnée fondamentale, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, et que les religions ont une histoire. Et qu'elles ne sont pas figées, on peut le faire tout en respectant les consciences religieuses. On peut très très bien traiter le Coran, la Bible, la Torah comme documents historiques et en même temps dire qu'il y a des appropriations croyantes de ces documents qui font sens pour un certain nombre de personnes et expliquer dans quelle mesure elles font sens. Mais ce n'est pas sortir de la neutralité laïque que de l'expliquer. Donc, c'est un enjeu considérable. Vous vouliez, comme on le fait quelquefois dans les médias, etc., le problème des banlieues, les religions, etc., mais comme vous savez, c'est, à mon avis, c'est tout à fait abusif d'interpréter le problème des banlieues à travers la grille des religions. Ça nous renvoie à des questions de marginalisation sociale, économique, culturelle, beaucoup plus profonde et beaucoup plus large. Et que même, je dirais, on a pu plutôt observer dans ces temps difficiles et troublés que l'initiative d'un certain nombre de responsables religieux, en particulier musulmans, pour accompagner, essayer de faire quelque chose pour apaiser les esprits.
Très bien. Ils vont à peu près à la clôture de cette séance. Oui, monsieur.
Une question qui donc sera très brève, de la part d'Alain Aurel, ancien préfet. Je voulais dire à monsieur Villene que nous étions très sensibles à la définition très précise qu'il avait donnée de la spécificité française dans ce riche panorama européen, en soulignant en effet la différence qu'il y a entre l'enseignement religieux et l'enseignement du religieux. Alors, à cet égard, et me référant à l'urgence qui, dans la question précédente, était alléguée, je voulais demander ce qu'il en était de l'application effective, à l'heure qu'il est, en France, de cette option, reposant sur la dite distinction, notamment savoir pourquoi l'enseignement catholique, quant à lui, semble-t-il, avait pris, et je parle bien de l'enseignement du religieux et non pas de l'enseignement religieux, quelque avance, avait pris quelque avance sur l'enseignement public. Et je voulais savoir ce qu'il en était de la part remise aux IUFM, c'est-à-dire aux instituts universitaires de formation des maîtres dans la mise en œuvre de ces décisions.
Merci pour cette question. Le rapport de Bray prévoyait la mise en place d'un module de formation en deuxième année d'IUFM, formation à l'enseignement du fait religieux et philosophie de la laïcité, c'est comme ça que cela s'appelait. Un certain nombre d'IUFM ont pris des initiatives pour qu'il y ait une part de formation initiale à l'analyse, la compréhension des phénomènes religieux dans la formation initiale des maîtres. Certains le font en se tournant vers le centre de ressources qu'est l'Institut européen Sciences et Religions, mais certains le font aussi en utilisant d'autres ressources. Donc il y a des initiatives qui sont prises dans les IUFM, mais nous sommes régulièrement, nous indiquons des noms de spécialistes pour monter telle ou telle formation dans tel IUFM, une journée ou deux sur l'étude des faits religieux. Il y a également de très nombreux recteurs qui prennent des initiatives au niveau de leur académie. Alors, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une sensibilisation très positive du corps enseignant à la nécessité de renforcer l'étude du fait religieux à l'école. Cette sensibilité est particulièrement forte chez les professeurs d'histoire, chez les professeurs de littérature, de langue, les professeurs d'art. C'est vrai qu'elle elle a été, en tout cas au début, même s'il y a des évolutions, elle a été moins marquée du côté des professeurs de philosophie, quelquefois, ont peut-être vu, je ne sais pas, ont eu plus de mal à intégrer cette initiative, mais on voit aussi nombre de professeurs de philosophie s'intéresser aussi au développement du fait religieux, et puis bien entendu les professeurs de sciences sociales et économiques, y compris d'ailleurs aussi les professeurs de sciences. Car tout le dossier, par exemple, du créationnisme ou de l'enseignement de la biologie, etc., bon, ils sont également concernés. Et on insiste justement au niveau de l'IUSR sur le fait que l'enseignement du fait religieux concerne en fait toutes les disciplines. Et qu'il y a certains aspects qui peuvent être pris en charge par chaque discipline.
Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette matinée de travaux. Je vous remercie tous très vivement de cette participation active. Je remercie les orateurs qui m'entourent, ceux qui ont dû partir. Et on m'a demandé de vous prévenir que les travaux reprendront à 14h45 précise. Je voudrais dire un mot sur les professeurs de philosophie. S'ils ont été peut-être plus lents à réagir, c'est que Dieu n'est jamais absent de leurs préoccupations, traditionnellement et par l'importance et la nature des auteurs qu'ils étudient.